Consuelo, livre 2, chapitre 68. Cependant, après les premières heures de ce sommeil accablant, elle fut réveillée par le bruit continuel qui se faisait autour d'elle. D'un côté, la vieille grand-mère, dont le lit touchait presque au sien, toussait et râlait sur le ton le plus aigu et le plus déchirant. De l'autre, une jeune femme allaitait son petit enfant et chantait pour le rendormir. Les ronflements des hommes ressemblaient à des rugissements. Un autre enfant, quatrième dans un lit, pleurait en se querellant avec ses frères. Les femmes se relevaient pour les mettre d'accord et faisaient plus de bruit encore par leurs réprimandes et leurs menaces. Ce mouvement perpétuel, ces cris d'enfants, la malpropreté, la mauvaise odeur et la chaleur de l'atmosphère chargée de miasmes épais, devinrent si désagréables à Consuelo qu'elle n'y put tenir longtemps. Elle se rhabilla sans bruit, et profitant d'un moment où tout le monde était endormi, elle sortit de la maison et chercha un coin pour dormir jusqu'au jour. Elle se flattait de dormir mieux en plein air. Ayant passé la nuit précédente à marcher, elle ne s'était pas aperçue du froid. Mais, outre qu'elle était dans une disposition d'accablement bien différente de l'excitation de son départ, le climat de cette région élevée se manifestait déjà plus âpre qu'aux environs de Risenburg. Elle sentit le frisson la saisir, et un horrible malaise lui fit craindre de ne pouvoir supporter une suite de journées de marche et de nuits sans repos, dont le début s'annonçait si désagréablement. C'est en vain qu'elle se reprocha d'être devenue princesse dans les douceurs de la vie de château. Elle eût donné le reste de ses jours en cet instant pour une heure de bon sommeil. Cependant, n'osant rentrer dans la maison de peur d'éveiller et d'indisposer ses hôtes, elle chercha la porte des granges. Et, trouvant l'étable ouverte à demi, elle y pénétra à tâtons. Un profond silence y régnait. Jugeant cet endroit désert, elle s'étendit sur une crèche remplie de paille, dont la chaleur et l'odeur saine lui parurent délicieuses. Elle commença à s'endormir, lorsqu'elle sentit sur son front une haleine chaude et humide qui se retira avec un souffle violent et une sorte d'imprécation étouffée. La première frayeur passée, elle aperçut, dans le crépuscule qui commençait à poindre, une longue figure et deux formidables cornes au-dessus de sa tête. C'était une belle vache qui avait passé le cou au râtelier et qui, après l'avoir flairée avec étonnement, se retirait avec épouvante. Consuelo se tapit dans le coin de manière à ne pas la contrarier et dormit fort tranquillement. Son oreille fut bientôt habituée à tous les bruits de l'étable, aux cris des chaînes dans leurs anneaux, au mugissement des génisses et au frottement des cornes contre les barres de la crèche. Elle ne s'éveilla même pas lorsque les laitières entrèrent pour faire sortir leurs bêtes et les traire en plein air. L'étable se trouva vide. L'endroit sombre où Consuelo s'était retiré avait empêché qu'on ne la découvrît, et le soleil était levé lorsqu'elle ouvrit de nouveau les yeux. Enfoncée dans la paille, elle goûta encore quelques instants le bien-être de sa situation, et se réjouit de se sentir rafraîchie et reposée, prête à reprendre sa marche, sans effort et sans inquiétude. Lorsqu'elle sauta à bas de la crèche pour chercher Joseph, le premier objet qu'elle rencontra fut Joseph lui-même, assis vis-à-vis d'elle sur la crèche d'en face. « Vous m'avez donné bien de l'inquiétude, cher signor Bertoni, » lui dit-il. « Lorsque les jeunes filles m'ont appris que vous n'étiez plus dans la chambre et qu'elles ne savaient pas ce que vous étiez devenu, je vous ai cherché partout, et ce n'est qu'en désespoir de cause que je suis revenu ici où j'avais passé la nuit et où je vous ai trouvé, à ma grande surprise. » J'en étais sortie dans l'obscurité du matin, et ne m'étais pas avisée de vous découvrir, là, vis-à-vis de moi, blottie dans cette paille et sous le nez de ces animaux qui eussent pu vous blesser. Vraiment, signora, vous êtes téméraire, et vous ne songez pas au péril de toute espèce que vous affrontez. « Quel péril, mon cher Beppo ? » dit Consuelo en souriant et en lui tendant la main. « Ces bonnes vaches ne sont pas des animaux bien féroces, et je leur ai fait plus de peur qu'elles ne pouvaient me faire de mal. » « Mais, signora, reprit Joseph en baissant la voix, « vous venez au milieu de la nuit vous réfugier dans le premier endroit qui se présente. D'autres hommes que moi pouvaient se trouver dans cette étable, quelques vagabonds moins respectueux que votre fidèle et dévoué Beppo, quelques cerfs grossiers. Si au lieu de la crèche où vous avez dormi, vous aviez choisi l'autre, et qu'au lieu de moi vous y eussiez éveillé en sursaut quelques soldats ou quelques rustres, Consuelo rougit en songeant qu'elle avait dormi si près de Joseph et toute seule avec lui dans les ténèbres. Mais cette honte ne fit qu'augmenter sa confiance et son amitié pour le bon jeune homme. « Joseph, lui dit-elle, vous voyez que dans mes imprudences, le ciel ne m'abandonne pas puisqu'il m'avait conduite auprès de vous. C'est lui qui m'a fait vous rencontrer hier matin au bord de la fontaine, où vous m'avez donné votre pain, votre confiance et votre amitié. C'est lui encore qui a placé cette nuit mon sommeil insouciant sous votre sauvegarde fraternelle. » Elle lui raconta en riant la mauvaise nuit qu'elle avait passée dans la chambre commune avec la bruyante famille de la ferme, et combien elle s'était sentie heureuse et tranquille au milieu des vaches. « Il est donc vrai, dit Joseph, que les animaux ont une habitation plus agréable et des mœurs plus élégantes que l'homme qui les soigne. C'est à quoi je songeais tout en m'endormant sur cette crèche. Ces bêtes ne me causaient ni frayeur ni dégoût, et je me reprochais d'avoir contracté des habitudes tellement aristocratiques que la société de mes semblables et le contact de leur indigence me fussent devenus insupportables. D'où vient cela, Joseph ? Celui qui est né dans la misère devrait, lorsqu'il y retombe, ne pas éprouver cette répugnance dédaigneuse à laquelle j'ai cédé. Et quand le cœur ne s'est pas vicié dans l'atmosphère de la richesse, pourquoi reste-t-on délicat d'habitude, comme je l'ai été cette nuit en fuyant la chaleur nauséabonde et la confusion bruyante de cette pauvre couvée humaine ? C'est que la propreté, l'air pur et le bon ordre domestique sont sans doute des besoins légitimes et impérieux pour toutes les organisations choisies, répondit Joseph. Quiconque est né artiste a le sentiment du beau et du bien, l'antipathie du grossier et du laid, et la misère et l'aide. Je suis paysan, moi aussi, et mes parents m'ont donné le jour sous le chaume, mais ils étaient artistes. Notre maison, quoique pauvre et petite, était pauvre et bien rangée. Il est vrai que notre pauvreté était voisine de l'aisance, tandis que l'excessive privation ôte peut-être jusqu'au sentiment du mieux. Pauvres gens, dit Consuelo, si j'étais riche, je voudrais tout de suite leur faire bâtir une maison. Et si j'étais reine, je leur ôterais ces impôts, ces moines et ces juifs qui les dévorent. Si vous étiez riche, vous n'y penseriez pas. Et si vous étiez née reine, vous ne le voudriez pas. Ainsi va le monde. Le monde va donc bien mal. Hélas, oui. Et sans la musique qui transporte l'âme dans un monde idéal, il faudrait se tuer quand on a le sentiment de ce qui se passe dans celui-ci. Se tuer est fort commode, mais ne fait de bien qu'à soi, Joseph. Il faudrait devenir riche et rester humain. Et comme cela ne paraît guère possible, il faudrait du moins que tous les pauvres fussent artistes. Vous n'avez pas là une mauvaise idée, Joseph. Si les malheureux avaient tous le sentiment et l'amour de l'art pour poétiser la souffrance et embellir la misère, il n'y aurait plus ni malpropreté, ni découragement, ni oubli de soi-même. Et alors les riches ne se permettraient plus de tant fouler et mépriser les misérables. On respecte toujours un peu les artistes. Eh, vous m'y faites songer pour la première fois, reprit Hyde. L'art peut donc avoir un but bien sérieux, bien utile pour les hommes. Aviez-vous donc pensé jusqu'ici que ce n'était qu'un amusement? Non, mais une maladie, une passion, un orage qui gronde dans le cœur, une fièvre qui s'allume en nous et que nous communiquons aux autres. Si vous savez ce que c'est, dites-le-moi.
Je vous le dirai quand je le comprendrai bien moi-même.
Mais c'est quelque chose de grand, n'en doutez pas, Joseph. Allons, partons et n'oublions pas le violon, votre unique propriété, ami Beppo, la source de votre future opulence.
Ils commencèrent par faire leurs petites provisions pour le déjeuner qu'ils méditaient de manger sur l'herbe dans quelque lieu romantique. Mais quand Joseph tira la bourse et voulut payer, la fermière sourit et refusa sans affectation, quoique avec fermeté. Quelles que fussent les instances de Consuelo, elle ne voulut jamais rien accepter, et même elle surveilla ses jeunes hôtes de manière à ce qu'ils ne pussent pas glisser le plus léger don aux enfants. « Rappelez-vous, dit-elle enfin avec un peu de hauteur à Joseph qui insistait, que mon mari est noble de naissance, et croyez bien que le malheur ne l'a pas avili au point de lui faire vendre l'hospitalité. »
« Cette fierté-là me semble un peu outrée, dit Joseph à sa compagne lorsqu'ils furent sur le chemin. Il y a plus d'orgueil que de charité dans le sentiment qui les anime.
Je n'y veux voir que de la charité, répondit Consuelo, et j'ai le cœur gros de honte et de repentir, en songeant que je n'ai pu supporter l'incommodité de cette maison, qui n'a pas craint d'être souillée et surchargée par la présence du vagabond que je représente. Ah, maudite recherche, sotte délicatesse des enfants gâtés de ce monde. Tu es une maladie, puisque tu n'es la santé pour les uns qu'au détriment des autres.
Pour une grande artiste comme vous l'êtes, je vous trouve trop sensible aux choses d'ici-bas, lui dit Joseph. Il me semble qu'il faut à l'artiste un peu plus d'indifférence et d'oubli de tout ce qui ne tient pas à sa profession. On disait dans l'auberge de Clatao, où j'ai entendu parler de vous et du château des géants, que le comte Albert de Rudolfstadt était un grand philosophe dans sa bizarrerie. Vous avez senti, signora, qu'on ne pouvait être artiste et philosophe en même temps. C'est pourquoi vous avez pris la fuite. Ne vous affectez donc plus du malheur des humains, et reprenons notre leçon d'hier.
Je le veux bien, Beppo, mais sachez auparavant que le comte Albert est un plus grand artiste que nous, tout philosophe qu'il est.
En vérité, il ne lui manque donc rien pour être aimé, reprit Joseph avec un soupir.
Rien à mes yeux que d'être pauvre et sans naissance, répondit Consuelo. Et doucement gagné par l'attention que Joseph lui prêtait, stimulé par d'autres questions naïves qu'il lui adressa en tremblant, elle se laissa entraîner au plaisir de lui parler assez longuement de son fiancé. Chaque réponse amenait une explication, et de détails en détails, elle en vint à lui raconter minutieusement toutes les particularités de l'affection qu'Albert lui avait inspirée. Peut-être cette confiance absolue en un jeune homme qu'elle ne connaissait que depuis la veille eût-elle été inconvenante en toute autre situation. Il est vrai que cette situation bizarre était seule capable de la faire naître. Quoi qu'il en soit, Consuelo céda à un besoin irrésistible de se rappeler à elle-même et de confier à un cœur ami les vertus de son fiancé. Et tout en parlant ainsi, elle sentit, avec la même satisfaction qu'on éprouve à faire l'essai de ses forces après une maladie grave, qu'elle aimait Albert plus qu'elle ne s'en était flattée en lui promettant de travailler à n'aimer que lui. Son imagination s'exaltait sans inquiétude à mesure qu'elle s'éloignait de lui. Et tout ce qu'il y avait de beau, de grand et de respectable dans son caractère, lui apparut sous un jour plus brillant lorsqu'elle ne sentit plus en elle la crainte de prendre trop précipitamment une résolution absolue. Sa fierté ne souffrait plus de l'idée qu'on pouvait l'accuser d'ambition, car elle fuyait. Elle renonçait en quelque sorte aux avantages matériels attachés à cette union. Elle pouvait donc, sans contrainte et sans honte, se livrer à l'affection dominante de son âme. Le nom d'Anzoletto ne vint pas une seule fois sur ses lèvres, et elle s'aperçut encore avec plaisir qu'elle n'avait pas même songé à faire mention de lui dans le récit de son séjour en Bohême. Ses épanchements, tout déplacés et téméraires qu'ils pussent être, amenèrent les meilleurs résultats. Ils firent comprendre à Joseph combien l'âme de Consuelo était sérieusement occupée, et les espérances vagues qu'ils pouvaient avoir involontairement conçues s'évanouirent comme des songes, dont il s'efforça même de dissiper le souvenir. Après une ou deux heures de silence qui succédèrent à cet entretien animé, il prit la ferme résolution de ne plus voir en elle ni une belle sirène, ni un dangereux et problématique camarade, mais une grande artiste et une noble femme, dont les conseils et l'amitié étendraient sur toute sa vie une heureuse influence. Autant pour répondre à sa confiance que pour mettre à ses propres désirs une double barrière, il lui ouvrit son âme et lui raconta comme quoi lui aussi était engagé et, pour ainsi dire, fiancé. Son roman de cœur était moins poétique que celui de Consuelo. Mais pour qui sait l'issue de ce roman dans la vie de Hind, il n'était pas moins pur et moins noble. Il avait témoigné de l'amitié à la fille de son généreux hôte, le perruquier Keller, et celui-ci, voyant cette innocente liaison, lui avait dit « Joseph, je me fie à toi. Tu parais aimer ma fille, et je vois que tu ne lui es pas indifférent. Si tu es aussi loyal que laborieux et reconnaissant, quand tu auras assuré ton existence, tu seras mon gendre. » Dans un mouvement de gratitude exaltée, Joseph avait promis, juré. Et quoique sa fiancée ne lui inspirât pas la moindre passion, il se regardait comme enchaîné pour jamais. Il raconta ceci avec une mélancolie qu'il ne put vaincre en songeant à la différence de sa position réelle et des rêves enivrants auxquels il lui fallait renoncer. Consuelo regarda cette tristesse comme l'indice d'un amour profond et invincible pour la fille de Keller. Il n'osa la détromper. Et son estime, son abandon complet dans la loyauté et la pureté de Beppo en augmentèrent d'autant. Leur voyage ne fut donc troublé par aucune de ces crises et de ces explosions que l'on eût pu présager en voyant partir ensemble pour un tête-à-tête de 15 jours et au milieu de toutes les circonstances qui pouvaient garantir l'impunité, deux jeunes gens aimables, intelligents et remplis de sympathie l'un pour l'autre. Quoique Joseph n'aimât pas la fille de Keller, il consentit à laisser prendre sa fidélité de conscience pour une fidélité de cœur. Et quoiqu'il sentît encore parfois l'orage gronder dans son sein, il sut si bien l'y maîtriser que sa chaste compagne, dormant au fond des bois sur la bruyère, gardée par lui comme par un chien fidèle, traversant à ses côtés des solitudes profondes, loin de tout regard humain, passant maintes fois la nuit avec lui dans la même grange ou dans la même grotte, ne se douta pas une seule fois de ses combats et des mérites de sa victoire. Dans sa vieillesse, lorsque Hind lut les premiers livres des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, il sourit avec des yeux baignés de larmes en se rappelant sa traversée du Böhmerwald avec Consuelo, l'amour tremblant et la pieuse innocence pour compagnons de voyage. Une fois, pourtant, la vertu du jeune musicien se trouva à une rude épreuve. Lorsque le temps était beau, les chemins faciles et la lune brillante, ils adoptaient la vraie et bonne manière de voyager pédestrement sans courir les risques des mauvais gîtes. Ils s'établissaient dans quelque lieu tranquille et abrité pour y passer la journée à causer, à dîner, à faire de la musique et à dormir. Aussitôt que la soirée devenait froide, ils achevaient de souper, pliaient bagages et reprenaient leur course jusqu'au jour. Ils échappaient ainsi à la fatigue d'une marche au soleil, au danger d'être examinés curieusement, à la malpropreté et à la dépense des auberges. Mais lorsque la pluie, qui devint assez fréquente dans la partie élevée du Böhmerwald où la molle d'eau prend sa source, les forçait de chercher un abri, ils se retiraient où ils pouvaient, tantôt dans la cabane de quelques serres, tantôt dans les hangars de quelques châtellenies. Ils fuyaient avec soin les cabarets, où ils eussent pu trouver plus facilement à se loger, dans la crainte des mauvaises rencontres, des propos grossiers et des scènes bruyantes. Un soir donc, pressés par l'orage, ils entrèrent dans la hutte d'un chevrier, qui, pour toute démonstration d'hospitalité, leur dit en bâillant et en étendant les bras du côté de sa bergerie « Allez au foin !» Consuelo se glissa dans un coin bien sombre, comme elle avait coutume de faire, et Joseph allait s'installer à distance dans un autre coin, lorsqu'il heurta les jambes d'un homme endormi qu'il apostropha rudement. D'autres jurements répondirent à l'imprécation du dormeur, et Joseph, effrayé de cette compagnie, se rapprocha de Consuelo et lui saisit le bras pour être sûr que personne ne se mettrait entre eux. D'abord, leur pensée fut de sortir, mais la pluie ruisselait à grand bruit sur le toit de planches de la hutte, et tout le monde était rendormi. « Restons, dit Joseph à voix basse, jusqu'à ce que la pluie ait cessé. Vous pouvez dormir sans crainte, je ne fermerai pas l'œil, je resterai près de vous. Personne ne peut se douter qu'il y ait une femme ici. Aussitôt que le temps redeviendra supportable, je vous éveillerai et nous nous glisserons dehors. » Consuelo n'était pas fort rassuré. Mais s'il y avait plus de danger à sortir tout de suite qu'à rester. Le chevrier et ses hôtes remarqueraient cette crainte de demeurer avec eux. Ils en prendraient des soupçons, ou sur leur sexe, ou sur l'argent qu'on pourrait leur supposer. Et si ces hommes étaient capables de mauvaises intentions, ils les suivraient dans la campagne pour les attaquer. Consuelo, ayant fait toutes ces réflexions, se tint tranquille. Mais elle enlaça son bras à celui de Joseph, par un sentiment de frayeur bien naturel et de confiance bien fondée en sa sollicitude. Quand la pluie cessa, comme ils n'avaient dormi ni l'un ni l'autre, ils se disposaient à partir, lorsqu'ils entendirent remuer leurs compagnons inconnus, qui se levèrent et s'entretinrent à voix basse dans un argot incompréhensible. Après avoir soulevé de lourds paquets qu'ils chargèrent sur leur dos, ils se retirèrent en échangeant avec le chevrier quelques mots allemands qui firent juger à Joseph qu'il faisait la contrebande et que leur hôte était dans la confidence. Il n'était guère que minuit, la lune se levait, et à la lueur d'un rayon qui tombait obliquement sur la porte entr'ouverte, Consuelo vit briller leurs armes, tandis qu'ils s'occupaient à les cacher sous leurs manteaux. En même temps, elle s'assura qu'il n'y avait plus personne dans la hutte, et le chevrier lui-même l'y laissa seul avec Hind, car il suivit les contrebandiers pour les guider dans les sentiers de la montagne et leur enseigner un passage à la frontière, connu, disait-il, de lui seul. « Si tu nous trompes, au premier soupçon, je te fais sauter la cervelle !» lui dit un de ces hommes à figure énergique et grave. Ce fut la dernière parole que Consuelo entendit. Leurs pas mesurés firent craquer le gravier pendant quelques instants. Le bruit d'un ruisseau voisin, grossi par la pluie, couvrit celui de leur marche, qui se perdait dans l'éloignement. « Nous avions tort de les craindre, » dit Joseph, sans quitter cependant le bras de Consuelo, qu'il pressait toujours contre sa poitrine. « Ce sont des gens qui évitent les regards encore plus que nous. » « Et à cause de cela, je crois que nous avons couru quelques dangers, » répondit Consuelo. « Quand vous les avez heurtés dans l'obscurité, vous avez bien fait de ne rien répondre à leurs jurements. Ils vous ont pris pour un des leurs. Autrement, ils nous auraient peut-être craints comme des espions et nous auraient fait un mauvais parti. Grâce à Dieu, il n'y a plus rien à craindre, et nous voilà enfin seuls. » « Reposez-vous donc !» dit Joseph en sentant à regret le bras de Consuelo se détacher du sien. « Je veillerai encore, et au jour nous partirons. » Consuelo avait été plus fatiguée par la peur que par la marche. Elle était si habituée à dormir sous la garde de son ami qu'elle céda au sommeil. Mais Joseph, qui avait pris lui aussi, après bien des agitations, l'habitude de dormir auprès d'elle, ne put cette fois goûter aucun repos. Cette main de Consuelo, qu'il avait tenue toute tremblante dans la sienne pendant 2 heures, ces émotions de terreur et de jalousie qui avaient réveillé toute l'intensité de son amour, et jusqu'à cette dernière parole que Consuelo lui disait en s'endormant, « Nous voilà enfin seuls. allumait en lui une fièvre brûlante. Au lieu de se retirer au fond de la hutte pour lui témoigner son respect, comme il avait accoutumé de faire, voyant qu'elle-même ne songeait pas à s'éloigner de lui, il resta assis à ses côtés. Et les palpitations de son cœur devinrent si violentes que Consuelo eût pu les entendre si elle n'eût pas été endormie. Tout l'agitait. Le bruit mélancolique du ruisseau, les plaintes du vent dans les sapins, et les rayons de la lune qui se glissaient par une fente de la toiture et venaient éclairer faiblement le visage pâle de Consuelo encadré dans ses cheveux noirs. Enfin, ce je ne sais quoi de terrible et de farouche qui passe de la nature extérieure dans le cœur de l'homme quand la vie est sauvage autour de lui. Il commençait à se calmer et à s'assoupir lorsqu'il crut sentir des mains sur sa poitrine. Il bondit sur la fougère et saisit dans ses bras un petit chevreau qui était venu s'agenouiller et se réchauffer sur son sein. Il le caressa, et sans savoir pourquoi, il le couvrit de larmes et de baisers. Enfin le jour parut, et en voyant plus distinctement le noble front et les traits graves et purs de Consuelo, il eut honte de ses tourments. Il sortit pour aller tremper son visage et ses cheveux dans l'eau glacée du torrent. Il semblait vouloir se purifier des pensées coupables qui avaient embrasé son cerveau. Consuelo vint bientôt l'y joindre et faire la même ablution pour dissiper l'apesantissement du sommeil et se familiariser courageusement avec l'atmosphère du matin, comme elle faisait gaiement tous les jours. Elle s'étonna de voir Hyde si défait et si triste. « Oh, pour le coup, frère Beppo, lui dit-elle, vous ne supportez pas aussi bien que moi les fatigues et les émotions. Vous voilà aussi pâle que ces petites fleurs qui ont l'air de pleurer sur la face de l'eau. Et vous, vous êtes aussi fraîche que ces belles roses sauvages qui ont l'air de rire sur ces bords, répondit Joseph. Je crois bien que je sais braver la fatigue, malgré ma figure terne. Mais l'émotion, il est vrai, signora, que je ne sais guère la supporter. » Il fut triste pendant toute la matinée, et lorsqu'ils s'arrêtèrent pour manger du pain et des noisettes dans une belle prairie en pente rapide, sous un berceau de vignes sauvages, elle le tourmenta de questions si ingénues pour lui faire avouer la cause de son humeur sombre, qu'il ne put s'empêcher de lui faire une réponse où entrait un grand dépit contre lui-même et contre sa propre destinée. « Eh bien, puisque vous voulez le savoir, dit-il, je songe que je suis bien malheureux, car j'approche tous les jours un peu plus de Vienne, où ma destinée est engagée, bien que mon cœur ne le soit pas. Je n'aime pas ma fiancée. Je sens que je ne l'aimerai jamais, et pourtant j'ai promis, et je tiendrai parole. « Serait-il possible ? » s'écria Consuelo, frappé de surprise. « En ce cas, mon pauvre Beppo, nos destinées, que je croyais conformes en bien des points, sont donc entièrement opposées. Car vous courez vers une fiancée que vous n'aimez pas, et moi, je fuis un fiancé que j'aime. Étrange fortune, qui donne aux uns ce qu'ils redoutent pour arracher aux autres ce qu'ils chérissent. » Elle lui serra affectueusement la main en parlant ainsi, et Joseph vit bien que cette réponse ne lui était pas dictée par le soupçon de sa témérité et le désir de lui donner une leçon. Mais la leçon n'en fut que plus efficace. Elle le plaignit de son malheur et s'en affligeait avec lui, tout en lui montrant, par un cri du cœur sincère et profond, qu'elle en aimait un autre, sans distraction et sans défaillance. Ce fut la dernière folie de Joseph envers elle. Il prit son violon, et, le raclant avec force, il oublia cette nuit orageuse. Quand ils se remirent en route, il avait complètement abjuré un amour impossible, et les événements qui suivirent ne lui firent plus sentir que la force du dévouement et de l'amitié. Lorsque Consuelo voyait passer un nuage sur son front et qu'elle tâchait de l'écarter par de douces paroles, « Ne vous inquiétez pas de moi, lui répondait-il. Si je suis condamné à n'avoir pas d'amour pour ma femme, du moins j'aurai de l'amitié pour elle. Et l'amitié peut consoler de l'amour. Je le sens mieux que vous ne croyez. »
« Chapitre 69. Hind n'eut jamais lieu de regretter ce voyage et les souffrances qu'il avait combattues, car il y prit les meilleures leçons d'italien, et même les meilleures notions de musique qu'il eût encore eues dans sa vie. Durant les longues haltes qu'ils firent dans les beaux jours, sous les solitaires ombrages du Böhmerwald, nos jeunes artistes se révélèrent l'un à l'autre tout ce qu'ils possédaient d'intelligence et de génie. Quoique Joseph Hind eût une belle voix et sût en tirer grand parti comme choriste, quoiqu'il jouât agréablement du violon et de plusieurs instruments, il comprit bientôt, en écoutant chanter Consuelo, qu'elle lui était infiniment supérieure comme virtuose, et qu'elle eût pu faire de lui un chanteur habile sans l'aide du Porpora. Mais l'ambition et les facultés de Hein ne se bornaient pas à cette branche de l'art. Et Consuelo, en le voyant si peu avancé dans la pratique, tandis qu'en théorie il exprimait des idées si élevées et si saines, lui dit un jour en souriant « Je ne sais pas si je fais bien de vous rattacher à l'étude du chant, car si vous venez à vous passionner pour la profession de chanteur, vous sacrifierez peut-être de plus hautes facultés qui sont en vous. Voyons donc un peu vos compositions. Malgré mes longues et sévères études de contrepoint avec un aussi grand maître que le Porpora, ce que j'ai appris ne me sert qu'à bien comprendre les créations du génie, et je n'aurai plus le temps, quand même j'en aurai l'audace, de créer moi-même des œuvres de longue haleine. Au lieu que si vous avez le génie créateur, vous devez suivre cette route et ne considérer le chant et l'étude des instruments que comme vos moyens matériels. » Depuis que Hind avait rencontré Consuelo, il est bien vrai qu'il ne songeait plus qu'à se faire chanteur. La suivre ou vivre auprès d'elle, la retrouver partout dans sa vie nomade, tel était son rêve ardent depuis quelques jours. Il fit donc difficulté de lui montrer son dernier manuscrit, quoiqu'il l'eût avec lui et qu'il eût achevé de l'écrire en allant à Pilsen. Il craignait également et de lui sembler médiocre en ce genre et de lui montrer un talent qui la porterait à combattre son envie de chanter. Il céda enfin et, moitié de gré, moitié de force, se laissa arracher le cahier mystérieux. C'était une petite sonate pour piano qu'il destinait à ses jeunes élèves. Consuelo commença par la lire des yeux, et Joseph s'émerveilla de la lui voir saisir aussi parfaitement par une simple lecture que si elle l'eût entendu exécuter. Ensuite, elle lui fit essayer divers passages sur le violon, et chanta elle-même ce qui était possible pour la voix. J'ignore si Consuelo devina, d'après cette bleuette, le futur auteur de la création et de tant d'autres productions éminentes. Mais il est certain qu'elle pressentit un bon maître, et elle lui dit, en lui rendant son manuscrit, « Courage, Beppo, tu es un artiste distingué, et tu peux être un grand compositeur si tu travailles. Tu as des idées, cela est certain. Avec des idées et de la science, on peut beaucoup. Acquiers donc de la science, et triomphons de la mauvaise humeur du Porpora. C'est le maître qu'il te faut. Mais ne songe plus aux coulisses, ta place est ailleurs, et ton bâton de commandement est ta plume. Tu ne dois pas obéir, mais imposer. Quand on peut être l'âme de l'œuvre, comment songe-t-on à se ranger parmi les machines? Allons, maestro en herbe, n'étudiez plus le tri et la cadence avec votre gosier. Sachez où il faut les placer et non comment il faut les faire. Ceci regarde votre très humble servante et subordonnée, qui vous retient le premier rôle de femme que vous voudrez bien écrire pour un mezzo-soprano. « Oh, Consuelo de mi alma !» s'écria Joseph, transporté de joie et d'espérance. « Écrire pour vous, être compris et exprimé par vous, quelle gloire, quelles ambitions vous me suggérez! Mais non, c'est un rêve, une folie. Enseignez-moi à chanter. J'aime mieux m'exercer à rendre, selon votre cœur et votre intelligence, les idées d'autrui que de mettre sur vos lèvres divines des accents indignes de vous. » Voyons, voyons, dit Consuelo, trêve de cérémonie. Essayez-vous à improviser, tantôt sur le violon, tantôt avec la voix. C'est ainsi que l'âme vient sur les lèvres et au bout des doigts.
Je saurai si vous avez le souffle divin ou si vous n'êtes qu'un écolier adroit, farci de réminiscences. »
Hein lui obéit. Elle remarqua avec plaisir qu'il n'était pas savant et qu'il y avait de la jeunesse, de la fraîcheur et de la simplicité dans ses idées premières. Elle l'encouragea de plus en plus et ne voulut désormais lui enseigner le chant que pour lui indiquer, comme elle le disait, la manière de s'en servir. Ils s'amusèrent ensuite à dire ensemble des petits duos italiens qu'elle lui fit connaître et qu'il apprit par cœur.
« Si nous venons à manquer d'argent avant la fin du voyage, lui dit-elle, il nous faudra bien chanter par les rues. D'ailleurs, la police peut vouloir mettre nos talents à l'épreuve si elle nous prend pour des vagabonds coupeurs de bourse, comme il y en a tant qui déshonorent la profession, les malheureux. Soyons donc prêts à tout événement. Ma voix, en la prenant tout à fait en contralto, peut passer pour celle d'un jeune garçon avant la mue. Il faut que vous appreniez aussi sur le violon quelques chansonnettes que vous m'accompagnerez. Vous allez voir que ce n'est pas une mauvaise étude. Ces facéties populaires sont pleines de verve et de sentiments originaux. Et quant à mes vieux chants espagnols, c'est du génie tout pur, du diamant brut. Maestro, faites-en votre profit. Les idées engendrent les idées. »
Ces études furent délicieuses pour Hind. C'est là peut-être qu'il conçut le génie de ses compositions enfantines et mignonnes qu'il fit plus tard pour les marionnettes des petits princes Esterhazy. Consuelo mettait à ses leçons tant de gaieté, de grâce, d'animation et d'esprit que le bon jeune homme, ramené à la pétulance et au bonheur insouciant de l'enfance, oubliait ses pensées d'amour, ses privations, ses inquiétudes, et souhaitait que cette éducation ambulante ne finît jamais. Nous ne prétendons pas faire l'itinéraire du voyage de Consuelo et d'Ain. Peu familiarisés avec les sentiers du Pommerwald, nous donnerions peut-être des indications inexactes si nous en suivions la trace dans les souvenirs confus qui nous les ont transmis. Il nous suffira de dire que la première moitié de ce voyage fut, en somme, plus agréable que pénible, jusqu'au moment d'une aventure que nous ne pouvons nous dispenser de rapporter. Ils avaient suivi, dès la source, la rive septentrionale de la Moldove, parce qu'elle leur avait semblé la moins fréquentée et la plus pittoresque. Ils descendirent donc, pendant tout un jour, la gorge encaissée qui se prolonge en s'abaissant dans la même direction que le Danube. Mais quand ils furent à la hauteur de Chenow, voyant la chaîne de montagnes s'abaisser vers la plaine, ils regrettèrent de n'avoir pas suivi l'autre rive du fleuve, et par conséquent l'autre bras de la chaîne qui s'éloignait en s'élevant du côté de la Bavière. Ces montagnes boisées leur offraient plus d'abris naturels et de sites poétiques que les vallées de la Bohême. Dans les stations qu'ils faisaient de jour dans les forêts, ils s'amusaient à chasser les petits oiseaux à la glu et au lacet, et quand, après leur sieste, ils trouvaient leurs pièges approvisionnés de ce menu gibier, ils faisaient avec du bois mort une cuisine en plein vent qui leur paraissait somptueuse. On n'accordait la vie qu'au rossignol, sous prétexte que ces oiseaux musiciens étaient des confrères. Nos pauvres enfants allaient donc cherchant un guet et ne le trouvaient pas. La rivière était rapide, encaissée, profonde et grossie par les pluies des jours précédents. Ils rencontrèrent enfin un abordage auquel était amarrée une petite barque gardée par un enfant. Ils hésitèrent un peu à s'en approcher, en voyant plusieurs personnes s'en approcher avant eux et marchander le passage. Ces hommes se divisèrent après s'être dit adieu. Trois se préparèrent à suivre la rive septentrionale de la Moldove, tandis que les deux autres entrèrent dans le bateau. Cette circonstance détermina Consuelo. Rencontre à droite, rencontre à gauche, dit-elle à Joseph. Autant vous traverser, puisque c'était notre intention. Hind hésitait encore et prétendait que ces gens avaient mauvaise mine, le parlaient haut et des manières brutales. Lorsqu'un d'entre eux, qui semblait vouloir démentir cette opinion défavorable, fit arrêter le batelier et, s'adressant à Consuelo, « Hé, mon enfant, approchez donc !» lui cria-t-il en allemand
et en lui faisant signe d'un air de bienveillance enjouée. « Le bateau n'est pas bien chargé, et vous pouvez passer avec nous si vous en avez envie. »«
Bien obligé, monsieur, » répondit Hind. « Nous profiterons de votre permission. »«
Allons, mes enfants, » reprit celui qui avait déjà parlé, et que son compagnon appelait Monsieur Meyer. « Allons, sautez !»
Joseph, à peine assis dans la barque, remarqua que les deux inconnus regardaient alternativement Consuelo et lui avec beaucoup d'attention et de curiosité. Cependant, la figure de ce Monsieur Meyer n'annonçait que douceur et gaieté. Sa voix était agréable, ses manières polies, et Consuelo prenait confiance dans ses cheveux grisonnants et dans son air paternel.
« Vous êtes musicien, mon garçon ?» dit-il bientôt à cette dernière.
« Pour vous servir, mon bon monsieur, » répondit Joseph.
« Vous aussi ?» dit Monsieur Meyer à Joseph, et lui montrant Consuelo.
« C'est votre frère, sans doute, » ajouta-t-il.
« Non, monsieur, c'est mon ami, » dit Joseph. « Nous ne sommes pas de même nation, et il entend peu l'allemand. »
« De quel pays est-il donc ?»
continua Monsieur Meyer en regardant toujours Consuelo.
« De l'Italie, monsieur, » répondit encore Hind.
« Vénitien, génois, romain, napolitain ou calabrais ?» dit Monsieur Meyer en articulant chacune de ces dénominations dans le dialecte qui s'y rapporte avec une admirable facilité.
« Oh, monsieur, je vois bien que vous pouvez parler avec toutes sortes d'Italiens, » répondit enfin Consuelo, qui craignait de se faire remarquer par un silence prolongé.
« Moi, je suis de Venise. »«
Ah, c'est un beau pays !» reprit M. Meyer en se servant tout de suite du dialecte familier à Consuelo.
« Est-ce qu'il y a longtemps que vous l'avez quitté ?»«
6 mois seulement. »«
Et vous courez le pays en jouant du violon ?»«
Non, c'est lui qui accompagne, » répondit Consuelo en montrant Joseph. « Moi, je chante. »
« Et vous ne jouez d'aucun instrument, ni au bois, ni flûte, ni tambourin ?»«
Non, cela m'est inutile. »«
Mais si vous êtes bon musicien, vous apprendriez facilement, n'est-ce pas ?»«
Oh, certainement, s'il le fallait. »«
Mais vous ne vous en souciez pas ?»«
Non, j'aime mieux chanter. »«
Et vous avez raison. Cependant, vous serez forcé d'en venir là, ou de changer de profession. » Du moins pendant un certain temps.
Pourquoi cela, monsieur ?
Parce que votre voix va bientôt muer, si elle n'a commencé déjà. Quel âge avez-vous ?
14 ans, 15 ans, tout au plus.
Quelque chose comme cela.
Eh bien, avant qu'il soit 1 an, vous chanterez comme une petite grenouille, et il n'est pas sûr que vous redeveniez un rossignol. C'est une épreuve douteuse pour un garçon que de passer de l'enfance à la jeunesse. Quelquefois, on perd la voix en prenant de la barbe. À votre place, j'apprendrai à jouer du fifre. Avec cela, on trouve toujours à gagner sa vie.
Je verrai quand j'en serai là.
Et vous, mon brave ? Dit Monsieur Meyer en s'adressant à Joseph en allemand. Ne jouez-vous que du violon ?
Pardon, monsieur. Répondit Joseph qui prenait confiance à son tour en voyant que le bon Meyer ne causait aucun embarras à Consuelo.
« Je joue un peu de plusieurs instruments. »«
Lesquels, par exemple ?»«
Le piano, la harpe, la flûte, un peu de tout quand je trouve l'occasion d'apprendre. »«
Avec tant de talent, vous avez grand tort de courir les chemins comme vous faites. C'est un rude métier. » Je vois que votre compagnon, qui est encore plus jeune et plus délicat que vous, n'en peut déjà plus, car il boite.
« Vous avez remarqué cela ?» dit Joseph, qui ne l'avait que trop remarqué aussi, quoique sa compagne n'eût pas voulu avouer l'enflure et la souffrance de ses pieds.
« Je l'ai très bien vu se traîner avec peine jusqu'au bateau, » reprit Meyer.
« Ah, que voulez-vous, monsieur ?» dit Hein en dissimulant son chagrin sous un air d'indifférence philosophique.
« On n'est pas né pour avoir toutes ses aises, et quand il faut souffrir, on souffre. »
« Mais quand on pourrait vivre plus heureux et plus honnête en se fixant ? Je n'aime pas avoir des enfants intelligents et doux, comme vous me paraissez l'être, faire le métier de vagabond.
Croyez-en un bonhomme qui a des enfants, lui aussi, et qui vraisemblablement ne vous reverra jamais, mes petits amis. On se tue et on se corrompt à courir les aventures. Souvenez-vous de ce que je vous dis là.
« Merci de votre bon conseil, monsieur, » reprit Consuelo avec un sourire affectueux. « Nous en profiterons peut-être. »
« Dieu vous entende, mon petit gondolier, » dit Monsieur Meyer à Consuelo, qui avait pris une rame, et machinalement, par une habitude toute populaire et vénitienne, s'était mise à naviguer. La barque touchait au rivage, après avoir fait un biais assez considérable à cause du courant de l'eau qui était un peu rude. Monsieur Meyer adressa un adieu amical aux jeunes artistes en leur souhaitant un bon voyage, et son compagnon silencieux les empêcha de payer leur part au batelier. Après les remerciements convenables, Consuelo et Joseph entrèrent dans un sentier qui conduisait vers les montagnes, tandis que les deux étrangers suivaient la rive aplanie du fleuve dans la même direction.
« Ce monsieur Meyer me paraît un brave homme, » dit Consuelo en se retournant une dernière fois sur la hauteur au moment de le perdre de vue.
« Je suis sûr que c'est un bon père de famille. »«
Il est curieux et bavard, » dit Joseph, « et je suis bien aise de vous voir débarrassé de ces questions. »
« Il aime à causer, comme toutes les personnes qui ont beaucoup voyagé. C'est un cosmopolite, à en juger par sa facilité à prononcer les divers dialectes. De quel pays peut-il être ?»«
Il a l'accent saxon, quoiqu'il parle bien le bas autrichien. Je le crois du nord de l'Allemagne. Prussien, peut-être. »«
Tant pis, je n'aime guère les Prussiens, et le roi Frédéric encore moins que toute sa nation. » D'après tout ce que j'ai entendu raconter de lui au château des géants.
En ce cas, vous vous plairez à Vienne. Ce roi batailleur et philosophe n'a de partisans ni à la cour ni à la ville.
En devisant ainsi, ils gagnèrent l'épaisseur des bois et suivirent des sentiers qui tantôt se perdaient sous les sapins et tantôt côtoyaient un amphithéâtre de montagnes accidentées. Consuelo trouvait ces monts Ircino carpathien plus agréable que sublime. Après avoir traversé maintes fois les Alpes, elle n'éprouvait pas les mêmes transports que Joseph, qui n'avait jamais vu de cime aussi majestueuse. Les impressions de celui-ci le portaient donc à l'enthousiasme, tandis que sa compagne se sentait plus disposée à la rêverie. D'ailleurs, Consuelo était très fatigué ce jour-là et faisait de grands efforts pour le dissimuler, afin de ne point affliger Joseph, qui ne s'en affligeait déjà que trop. Ils prirent du sommeil pendant quelques heures, et après le repas et la musique, ils repartirent au coucher du soleil. Mais bientôt Consuelo, quoiqu'elle eût baigné longtemps ses pieds délicats dans le cristal des fontaines, à la manière des héroïnes de l'idylle, sentit ses talons se déchirer sur les cailloux, et fut contrainte d'avouer qu'elle ne pouvait faire son étape de nuit. Malheureusement, le pays était tout à fait désert de ce côté-là. Pas une cabane, pas un moutier, pas un chalet sur le versant de la Moldave. Joseph était désespéré. La nuit était trop froide pour permettre le repos en plein air. À une ouverture entre deux collines, ils aperçurent enfin des lumières au bas du versant opposé. Cette vallée où ils descendirent, c'était la Bavière. Mais la ville qu'ils apercevaient était plus éloignée qu'ils ne l'avaient pensé. Il semblait au désolé Joseph qu'elle reculait à mesure qu'il marchait. Pour comble de malheur, le temps se couvrait de tous côtés, et bientôt une pluie fine et froide se mit à tomber. En peu d'instants, elle obscurcit tellement l'atmosphère que les lumières disparurent, et que nos voyageurs, arrivés non sans péril et sans peine au bas de la montagne, ne surent plus de quel côté se diriger. Ils étaient cependant sur une route assez unie, et ils continuaient à s'y traîner en la descendant toujours, lorsqu'ils entendirent le bruit d'une voiture qui venait à leur rencontre. Joseph n'hésita pas à l'aborder pour demander des indications sur le pays et sur la possibilité d'y trouver un gîte.
« Qui va là ?» lui répondit une voix forte, et il entendit en même temps claquer la batterie d'un pistolet.
Éloignez-vous, ou je vous fais sauter la tête. »
Nous ne sommes pas bien redoutables, répondit Joseph sans se déconcerter. Voyez, nous sommes deux enfants, et nous ne demandons rien qu'un renseignement.
Et mais, s'écria une autre voix, que Consuelo reconnut aussitôt pour celle de l'honnête monsieur Meyer. Ce sont mes petits drôles de ce matin, je reconnais l'accent de l'aîné. Êtes-vous là aussi, le gondolier?
Ajouta-t-il en vénitien et en appelant Consuelo.
C'est moi, répondit-elle dans le même dialecte. Nous nous sommes égarés, et nous vous demandons, mon bon monsieur, où nous pourrons trouver un palais ou une écurie pour nous retirer. Dites-le-nous si vous le savez.
Eh, mes pauvres enfants, reprit monsieur Meyer, vous êtes à 2 grands milles au moins de toute espèce d'habitation. Vous ne trouverez pas seulement un chenil le long de ces montagnes. Mais j'ai pitié de vous. Montez dans ma voiture. Je puis vous y donner 2 places sans me gêner. Allons, point de façon. Montez.
Monsieur, vous êtes 1000 fois trop bon, dit Consuelo, attendri de l'hospitalité de ce brave homme. Mais vous allez vers le nord, et nous vers l'Autriche.
Non, je vais à l'ouest. Dans 1 heure au plus, je vous déposerai à Bibrek. Vous y passerez la nuit, et demain vous pourrez gagner l'Autriche. Cela même abrégera votre route. Allons, décidez-vous, si vous ne trouvez pas de plaisir à recevoir la pluie et à nous retarder.
Eh bien, courage et confiance, dit Consuelo tout bas à Joseph. Et ils montèrent dans la voiture. Ils remarquèrent qu'il y avait 3 personnes, 2 sur le devant, dont l'une conduisait, l'autre, qui était M. Meyer, occupait la banquette de derrière. Consuelo prit un coin et Joseph le milieu. La voiture était une chaise à 6 places, spacieuse et solide. Le cheval, grand et fort, fouetté par une main vigoureuse, reprit le trot et fit sonner les grelots de son collier en secouant la tête avec impatience.